Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC.
À thème, il a mon portable, qu'il m'appelle.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Ici c'est Mars, surface rouge, atmosphère tendue volcanique, de la zygotomatique de Mac.
After Marseille.
Thibaut Giangrande.
Salut mes Marseillais, comment ça va? Bienvenue dans l'After Marseille, le podcast qui débat de l'actu de l'OM toutes les semaines, dispo sur les applis RMC, RMC Sport, sur vos applis habituelles, personnelles si vous le préférez. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. La compo du jour, Florent Germain en direct de Marseille. Salut Flo.
Salut Thibaut, salut à tous.
Et Walid Acherchour, salut Walid.
Salut Thibaut, salut Flo, salut ouais, à tous.
Le micro était bien allumé.
Salut Walid.
Lodi, c'est fini. 6 mois après son arrivée, le latéral brésilien part déjà pour un montant record, 23 millions d'euros, plus 2 de bonus. L'OM a-t-il eu raison de le laisser partir? Quelles conséquences pour la suite du mercato? C'est notre débat de la semaine. Tiens, d'ailleurs, petit quiz pour commencer. Bon, ça va être facile pour Flo, mais vous avez le top 5 des plus grosses ventes de l'OM ou pas? Flo, tu les as, je pense. Mais...
Oui, moi, je pense qu'il y a Michy Batshuayi.
Ouais, numéro 1, ouais. 39 millions à Chelsea.
Il doit avoir Imbula.
Non.
Non
Imbula. Drogba, Ribéry.
Ouais, exactement. Drogba.
Zambo.
Zambo.
Exactement.
Et voilà.
Et Lodi. Lodi, 5e. Ouais. Voilà. Drogba 38,5 à Chelsea, Ribéry 30 millions au Bayern, Zambo Anguissa 24 millions à Fulham et donc Lodi qui pourrait même passer devant parce que c'est 23 plus 2 de bonus au final. Donc, mais c'est la cinquième vente record du club et mine de rien, petite parenthèse.
Tu ne fais pas reverser d'argent je crois dans les autres dossiers.
Ah oui.
C'est la petite différence.
Voilà, là faut en donner 8 quand même à l'Atlético. Mais...
Alors attention, faut en donner 8 d'après les infos qu'on a. Mais c'est compliqué et j'aimerais bien qu'un jour il y ait plus de transparence sur ces échanges-là. Comme ça faciliterait la tâche pour tout le monde. Je suis peut-être un bisounours très naïf.
Un doux rêveur.
Mais, oui, un doux rêveur, mais c'est pas grave. Je l'assume. Je crois savoir que dans les 8 millions que l'OM doit reverser à l'Atlético, il y a effectivement la part du pourcentage à la revente et il y a aussi 3 millions d'euros que l'OM devait encore du transfert d'il y a 6 mois. En gros, ça veut dire que, enfin, parce que quand on dit comme ça, l'OM doit 8 millions à l'Atlético, on a l'impression qu'il faut faire 23 moins 8, donc le transfert à 2,15. C'est pas exactement ça. Il y avait de toute façon 3 millions qui étaient des retards de paiement, okay. Un paiement différé. Donc c'est subtil, mais il faut le signaler.
Tiens, petite parenthèse avant de partir dans le fond du débat. Longoria qui vend et qui vend bien a souligné quand même, les gars. C'est pas, on l'a suffisamment tensé pour avoir galéré sur les ventes.
Je sais pas si c'est Longoria qui vend.
L'OM de Longoria en tout cas.
Oui, enfin, d'après mes informations, c'est quand même Mehdi Benassa qui a utilisé ses réseaux avec l'Arabie Saoudite pour vendre Renan Lodi. Mais oui, ça fait partie du squad aujourd'hui de Longoria. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de telle vente avec l'Olympique de Marseille, même si ça ouvre d'autres questions. Pour moi, c'est une offre irrefusable par rapport à ce que Lodi fait depuis le début de saison. Mais ça montre aussi, on en parlait hier un petit peu dans l'after, le fait que la stabilité pour certains joueurs, soit dans les performances satisfaisantes pour les garder, soit pour d'autres raisons, on a du mal à garder ces éléments-là pour avoir un vécu, une expérience groupe.
Juste ce que tu dis par rapport à Benassia, c'est que en gros, donc c'est pas une offre qui arrive par hasard et on se dit elle est chère donc on le vend. C'est quand même chercher à l'exfiltrer, à le sortir.
Je pense que le club n'était pas satisfait de. Après, tout dépendra de ce que dira Flo. Si je parle sous le contrôle de Flo, mais moi les échos que j'ai eus, c'est que oui, ils n'étaient pas satisfaits de ce que faisait Renan Lodi, qui avait aussi une opportunité par rapport à ça, et que aujourd'hui Benassia a aussi ouvert les réseaux et ouvert les discussions en disant que Renan Lodi était possiblement à vendre.
D'ailleurs, c'est la question aussi et que je vous pose, et là je voudrais votre avis, Walid et Flo, est-ce que l'OM a bien fait de le laisser partir?
Non mais Walid l'a dit, c'est-à-dire que l'OM n'était pas totalement satisfait de Renan Lodi. Et ça entre en jeu. Je pense pas qu'il, c'était pas une priorité de le vendre, et on peut pas dire que ni Benatia ni Pablo Longoria aient remué ciel et terre pour absolument trouver une porte de sortie. Simplement, Mehdi Benatia, il apporte déjà sur certains championnats, ses relations avec certains clubs, certains agents, certains dirigeants, il apporte forcément aussi beaucoup à Pablo Longoria. Donc je pense que tout joueur de l'effectif de l'OM, ou presque, potentiellement est vendable. Et à partir du moment où il y avait une opportunité, et peut-être que Mehdi Benatia savait que Al Hilal recherchait un latéral gauche, et effectivement, Walid l'a dit, l'OM est pas satisfait. Enfin, pas trop satisfait de lui, disons qu'il n'a pas énormément séduit. En plus, il y a un aspect dont on parle assez peu, mais il est un petit peu fragile physiquement. Donc, il a beaucoup été géré depuis le début de saison parce que on estimait qu'il y avait une crainte. Il a comme un début de pubalgie et souvent des douleurs aux adducteurs. Parfois, ça coince aussi au niveau des ischios. Donc voilà,
mais je pense que tu là-dessus, Flo,
tu pèses le pour et le contre, quoi.
Parce que ça a fait aussi partie de la réflexion, c'est que cette pubalgie qui traîne et qui aurait pu continuer à traîner en deuxième partie de saison, plus ses performances, plus le fait que Murillo aussi a montré des belles choses sur les 6 premiers mois, plus l'offre irrefusable, ça a fait qu'aujourd'hui Renan Lodi n'est plus avec l'Olympique de Marseille.
Oui.
Et bon. tu disais Thibaut que pour une fois Pablo Longoria vend, enfin, ou que l'OM vend, à la limite, peu importe.
L'OM de Longoria, soit, en fait.
L'OM de Pablo Longoria, voilà exactement. Ouais. Il faut quand même être cohérent, c'est-à-dire qu'il y a quelques jours encore, ou même quelques semaines, enfin, on rappelait tous que l'OM avait quelques soucis financiers et que la seule chose qui pouvait peut-être donner une impulsion à ce mercato d'hiver, ce serait une offre qui se refuse pas, et une offre qui était peut-être inattendue il y a encore quelques jours, quelques semaines. Donc en fait, je dis pas que ça va tout déclencher, mais ça va permettre à l'OM, voilà, qui était un peu dans le dur, surveillé par la DNCG, d'avoir une latitude un peu plus importante sur certains dossiers. Et s'ils font partir Renan Lodi, déjà aussi, il faut rappeler que lui, le joueur, voilà, il voulait pas forcément, vu l'offre, il triple quand même son salaire minimum. Donc lui était, voulait partir aussi. C'est pas comme si t'avais mis un joueur à la porte. Et l'OM est confiant dans l'idée de pouvoir recruter à ce poste de latéral gauche. Ils ont déjà Ulysse Garcia, et il y aura a priori un autre joueur qui sera le titulaire. Donc ils sont sereins sur ce poste-là, quoi.
Oui, ça ouvre la porte maintenant à une fin de mercato très intéressante, parce qu'on parlait de ces recrutements-là avant même le départ de Lodi. Donc on peut imaginer, au-delà de l'arrière-gauche, au-delà de l'attaquant Mumbanya, dont on va dire un mot dans un instant, on peut imaginer d'autres renforts, en fait, Flo.
Oui, alors au poste de latéral gauche, c'est sûr et certain, puisque... Ouais. Bon, d'après les derniers échos, il y avait encore des discussions pour pourquoi pas Adrien Truffert. Donc je pense que ce sera un dossier assez difficile parce que Rennes n'est pas forcément vendeur, on l'a dit récemment, enfin en tout cas pour cet hiver. Mais ça peut bouger et je crois savoir qu'il y a une autre piste en parallèle.
Oui.
Vous savez, ils sont aussi assez malins, et les dirigeants de l'OM, que ce soit Mehdi Benatia, Pablo Longoria ou autres, ils se régalent si évidemment un autre nom n'est pas sorti dans la presse, et que Truffert ou autre, les rumeurs autour d'un joueur leur permettent de travailler plus sereinement. Donc je crois savoir qu'il y a une autre piste qui n'est pas sortie. On essaie de savoir le nom, mais c'est pas évident. Donc voilà, poste de latéral gauche. Et puis dans d'autres secteurs, il est possible que cette vente de Renan Lodi permette de recruter un petit peu plus que ce qui était prévu au départ.
Et ça, il y en a un qu'on n'avait pas vu arriver, Flo, et que tu nous as annoncé avant tout le monde, comme souvent. C'est donc ce Faris Mumbanya, attaquant nigérian de 23 ans.
Camerounais.
Camerounais. Attaquant camerounais de 23 ans, Bodø Glimt en Norvège. Qu'est-ce que vous pensez de cet achat?
Moi personnellement, je ne le connais pas. J'ai pas eu l'occasion de voir Bodø Glimt, donc je vais pas me prononcer sur le niveau du joueur. Après, ce qu'on me dit, c'est que
dans le profil, déjà.
C'est un profil un peu à la Boniface, à la Cora Adams, en tout cas. Pas forcément uniquement que dans le profil, mais en tout cas dans le coup qu'essaye de faire l'Olympique de Marseille. D'après les échos que j'ai, la réalité, c'est qu'il croit beaucoup en Illiman Ndiaye et en Aubameyang pour constituer le duo d'attaque sur la deuxième partie de saison. Et ils veulent prendre un attaquant supplémentaire, un joueur qui va qui arrive pour une grosse somme d'argent, pas avec un gros
8
salaire,
millions, c'est ça,
pas avec un gros salaire, avec un joueur qui doit continuer à progresser, mais qui dans la surface de réparation reste un buteur qui peut faire des belles choses en Ligue 1 de par son profil athlétique et physique. Maintenant, on va voir, on jugera sur pièce. Hein. Moi, on m'a dit beaucoup de choses sur Murillo que je connaissais pas à Anderlecht. Finalement, je suis agréablement surpris. Donc, ça sert à rien de parler de joueurs qu'on n'a pas assez vu.
Ouais, mais le profil est étonnant, Flo, quand même.
Étonnant. Enfin, on s'attendait pas forcément à ce que l'OM mette sa priorité sur un attaquant. Et d'après les échos de Jay, finalement, ça fait quand même quelques semaines que l'OM travaillait sur lui.
Oui, mais ce que je veux dire, les gars, c'est qu'on parlait dans les cibles de l'OM, on se disait il faut des joueurs. On a beaucoup fait de débats sur tout le tiers de l'équipe marseillaise qui est parti à la CAN. Et là, on prend un attaquant, 23 ans et demi, qui était en Norvège, qui est à la CAN, pas disponible tout de suite. Bon, c'était pas le profil a priori logique pour l'OM quand même.
C'est pas forcément le profil urgent. Après, ouais. Malgré tout, comme le disait Walid, Mehdi Benassia compte énormément dans ce mercato. Il a peut-être, avec Pablo Longoria, il lui a ouvert les yeux sur les nécessités de cet effectif. Et on a estimé que Vitinha, en termes de points de fixation, pesait pas assez dans une paire de deux attaquants. En plus, Gattuso réclamait un profil un peu costaud, un peu gaucher. Moi j'imaginais au départ que ce serait plus pour jouer un peu sur un côté en faux ailier à droite, mais malgré tout le changement de système a fait que maintenant tu es obligé de travailler dans la perspective d'une attaque à deux hommes quoi, ouais. deux pointes et quand tu regardes quand tu regardes le tableau, c'est vrai que moi je le connaissais pas forcément beaucoup ce joueur, mais en tout cas ses caractéristiques te font penser que il pourrait faire la paire avec Aubameyang quoi. C'est vrai que Ndiaye de toute façon dans ce système là, il va jouer dans l'axe. Il y a pas d'autre alternative parce que maintenant le 3-5-2 risque de s'imposer sur la durée à l'OM. Mais quand tu regardes un peu son profil, c'est vrai que ça peut être intéressant avec Aubameyang. Alors évidemment, ça peut un peu interpeller le fait qu'il fasse la Coupe d'Afrique des Nations, mais après il signe sur 4 ans. L'OM ne fait pas un recrutement uniquement pour la saison en cours.
En tout cas,
on va se poser des questions en revanche sur la suite, parce que effectivement, il y a quand même eu ce discours qui est, je pense, sincère de ne pas vouloir empiler les joueurs. Donc, je pense que son arrivée peut faire bouger les choses.
Ça scelle l'avenir de Vitinha.
Voilà ce que j'allais dire. Le gros coup dur là avec ce recrutement, c'est pour Vitinha.
La réalité, le signal qu'on nous envoie, c'est que Vitinha, s'il y a une offre avant la fin du mercato, il partira.
Ouais, mais à combien tu lâches Vitinha que t'as acheté plus de 30
millions. Après, à un moment donné, Thibaut, il faut aussi limiter la casse. Aujourd'hui, tu l'as acheté 32 millions d'euros, c'était hors sol par rapport à son niveau. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à t'entêter avec Vitinha.
Vitinha, Flo est pareil, je pars sous ton contrôle, mais quel club voit tous Vitinha, plus de 10 millions sur un Vitinha.
On sait pas, mais en tout cas, c'est le signal qui nous envoie. Moi, je l'ai répété.
C'est la sensation que j'ai aussi, non, mais c'est très clair. Après, je pense qu'il y aura des offres pour Vitinha. Je serais même pas étonné qu'il y en ait déjà. Et que si on se soit activé du côté de l'OM sur Faris Moumbagna, c'est qu'on a un plan. Là où je suis un petit peu surpris, c'est vrai que Pablo Longoria, il y a une semaine, déclarait qu'il fallait de la continuité, que en gros, il y avait quand même un petit coup de pression. Je sais pas si c'était dans le podcast ou sur l'antenne, j'avais quand même rappelé que Pablo Longoria, il avait un peu durci le ton concernant Vitinha, que en gros maintenant il fallait se bouger, quoi, que les excuses ça suffisait. Rappelez-toi, on avait fait un podcast sur Vitinha, on l'avait senti ça quand même, que Longoria, il y avait une petite pointe d'agacement qui commençait à arriver. Peut-être qu'à ce moment-là, moi j'en voudrais jamais un dirigeant, à la limite dans une interview ou conf de presse, tant que c'est pas un mensonge énorme de pas dévoiler toutes ses cartes s'il y a quelque chose. Mais a posteriori, je me dis que cette impatience qu'il a affichée concernant Vitinha, toute proportion gardée, mais je pense ça prouve ce que dit Walid.
Moi je l'avais lu différemment.
Son avenir semble un petit peu fragilisé au moins.
Flo, moi je l'avais lu différemment à l'époque, si on devait lire entre les lignes, c'est que pour moi c'était déjà un aveu d'échec. dans son discours, et ça sentait déjà la fin quand il en parlait. En gros, s'il y a une possibilité, faudra voir comment le dossier évolue. Et à partir du moment où tu ouvres la porte, on sait à quoi s'en tenir.
C'est vrai, c'est vrai. Et après, faudra voir aussi pour d'autres joueurs, parce que on sait jamais. Hein. J'ai quand même la sensation que dans le secteur offensif, surtout. Concernant les joueurs à les attaquants au milieu offensif, je pense aussi à Ismail Assar ou d'autres. S'il y avait une offre, je suis pas sûr que l'OM retienne certains joueurs, parce que on sent bien quand même une volonté de pas s'entêter,
de rectifier les erreurs de cet été.
Voilà, aussi Vitinha, ça fait un an. Voilà. Cet été, il y a eu aussi un recrutement. Peut-être qu'il y a certains doutes aussi dans l'esprit de Mehdi Bennassia, parce que Mehdi Bennassia arrive, il a un regard neuf, et ça compte beaucoup. On avait parlé ces dernières saisons de l'influence importante qu'avait Javier Ribalta sur Pablo Longoria. C'est-à-dire que Pablo Longoria, il est à l'écoute, il fait pas tout en solo. Quand il fait venir des hommes, c'est aussi pour les consulter, pourquoi pas les suivre et avoir de nouvelles idées. Donc ça va vite parfois dans leur esprit. Il est très critiqué par rapport à ça, Pablo Longoria. On peut le comprendre, c'est vrai qu'il y a souvent une frénésie. On s'attendait pas à ce qui est au final pas mal de mouvements sur ce mercato, mais on l'a expliqué avec l'Audi ou autre, et les idées aussi de Mehdi Bennassia qui comptent beaucoup.
Et ça va enchaîner fort sans Moumbania, donc dans un premier temps, puisque l'OM est à Rennes dimanche en 16e de finale de Coupe de France, avant un enchaînement OM Monaco et OL OM. Et on sera là, bien sûr, toutes les semaines pour débriefer.
Un mois de janvier charnière pour l'Olympique de Marseille.
Absolument. Merci Flo, merci Walid.
Merci.
Merci à Jérôme.
J'ai souri parce que c'est vrai que j'ai l'impression que toutes les semaines sont charnières avec l'OM, et ça me...
Bah, c'est un peu le principe de ce club.
Je suis toujours surpris de ce club.
Heureusement que la Ligue 1 avance à petits pas, hein, parce que sinon, ce mois charnière, ça aurait fait longtemps qu'on n'en parlerait plus.
Merci les gars, merci à Jérôme, Thomas, les gars, et à Charline en régie, et merci surtout à vous d'être là, fidèles comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'être là. Ciao tout le monde.
RMC After Marseille.
RMC Football. Samedi à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.